Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Claude Gronfier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au sein du département de chronobiologie à l'INSERM de Bron, spécialiste des rythmes biologiques. Avec vous, on va parler du sommeil à l'occasion de la 17e journée du sommeil à Lyon, vendredi. Alors déjà, une journée nationale du sommeil, à quoi ça sert ?
Alors une journée nationale du sommeil, ça sert à informer le grand public de l'importance du sommeil, qu'on ignore malheureusement trop souvent, et de partager avec le public, eh bien, non seulement les recommandations en matière de sommeil, mais aussi les dernières découvertes, afin de mieux comprendre pourquoi le sommeil est important, pourquoi il faut le protéger et comment il faut s'y prendre dans les situations où le sommeil est de mauvaise qualité.
On le sait, le sommeil, c'est un besoin vital, on en a tous besoin. Et pourtant, on le mésestime souvent, on ne sait pas trop de combien d'heures de sommeil on a besoin, c'est souvent un peu compliqué. Pourquoi est-ce que c'est important de bien dormir ?
Alors, il est absolument important de bien dormir parce qu'on a découvert au cours des 10 à 15 dernières années que le sommeil était impliqué non seulement dans, on pourrait dire, la réparation de l'organisme qui est fatigué par la journée précédente, il est aussi impliqué dans certains processus qui permettent de se réveiller tout simplement moins fatigué et en meilleure forme intellectuelle. Mais ce qu'on a découvert, c'est que le sommeil est aussi impliqué dans la régulation du métabolisme, ce qui nous permet de traiter correctement notre alimentation et de ne pas stocker trop de graisse, par exemple. Il est aussi impliqué dans l'intelligence, la cognition. On a vu, par exemple, que lors d'une dette de sommeil, eh bien, nos capacités cognitives, nos capacités d'apprentissage, en particulier chez l'enfant, sont altérées. Et puis, on a vu aussi que le sommeil est très impliqué dans ce qu'on appelle la sphère psychiatrique. Les personnes qui ont un sommeil de moins bonne qualité, ceux qui ont une mauvaise hygiène de sommeil, eh bien, sont des gens qui vont avoir une tendance supérieure à avoir des troubles de type dépressif, anxieux, une moins bonne capacité à gérer leurs émotions, par exemple. Et puis, les résultats plus récents nous laissent penser que eh bien, le sommeil est aussi impliqué dans certains mécanismes de régulation de l'immunité. Les personnes, en effet, qui souffrent de troubles du sommeil, eh bien, souffrent plus de troubles de type immunitaire ou infectieux. Et donc, il est évidemment, pour toutes ces raisons, absolument crucial de considérer que le sommeil, il est impliqué dans toutes les grandes fonctions de notre organisme et dans des situations de mauvaise hygiène de sommeil ou dans des situations de pathologie, eh bien, des troubles peuvent apparaître.
Vous parlez de troubles du sommeil, on en connaît certains, quelques-uns, l'apnée du sommeil notamment. Quels sont les plus grands troubles, les principaux troubles du sommeil dont souffrent les Français aujourd'hui ?
Alors les troubles dont souffrent les Français aujourd'hui, principalement, sont des troubles de type insomniaque. Vous savez que les Français et la population d'ailleurs internationale en général se plaint pour près de 50% d'entre elles d'avoir des épisodes d'insomnie. On pense que c'est entre 20 et 30% des Français qui souffrent réellement d'une insomnie. Alors l'insomnie, c'est une incapacité à faire une bonne nuit de sommeil. Hein. Ça n'est pas une question de durée d'heure. C'est chacun a une durée de sommeil privilégiée qui va lui convenir, qui va convenir à son organisme. L'insomnie, c'est une qualité de sommeil qui ne correspond pas à nos besoins. Donc certains vont souffrir d'insomnie dès lors qu'il va leur manquer une heure de sommeil. Non, ils ne pourront pas s'endormir, par exemple, pendant une heure. D'autres vont avoir un réveil trop précoce. Ou d'autres vont avoir un sommeil très perturbé, très fragmenté, elles auront la sensation de s'être réveillées très souvent. Donc dans ces situations-là, quelle que soit finalement la durée de la capacité à dormir, eh bien ces gens-là vont rapporter une insomnie, un mauvais sommeil. Donc ça c'est le trouble dont on parle évidemment le plus fréquemment parce qu'il est très fréquent. L'autre trouble qui évidemment est très présent, c'est l'apnée du sommeil, c'est des individus qui, au cours de la nuit, eh bien, vont avoir des troubles respiratoires. Ils vont faire ce qu'on appelle des apnées, une petite pause respiratoire, ne pas respirer pendant un petit moment, quelques secondes. Et le problème de ce trouble, c'est que, puisqu'il va y avoir un arrêt respiratoire, ça va conduire à une moins bonne oxygénation sanguine. Et cela va avoir des conséquences qui sont maintenant bien connues, des conséquences qui peuvent être tout à fait fâcheuses quand l'apnée du sommeil n'est pas soignée. Ce sont par exemple des troubles métaboliques. On observe plus d'obésité ou de surpoids chez les individus qui sont atteints d'apnée du sommeil. On observe aussi, et c'est évidemment particulièrement dangereux, on observe des endormissements au cours de la journée. Ça peut être évidemment dangereux lorsqu'on est au volant de sa voiture ou lorsqu'on travaille sur une machine, si l'on est machiniste ou on travaille en usine. avec des appareillages qui peuvent être dangereux pour sa sécurité. Donc ce trouble de l'apnée du sommeil doit être évidemment traité, tout comme celui de l'insomnie, tout comme en général tous les troubles. Mais ceux-là sont les plus prévalents, les plus rapportés par ceux qui souffrent de troubles du sommeil.
Docteur Claude Gonfiel en a dressé un petit tableau de la situation du sommeil en France. Le thème de cette journée nationale du sommeil, vendredi, donc, c'est l'impact éventuel du fait de dormir seul ou non. On imagine que si la question est posée, c'est que cette pratique a des impacts. Quels sont-ils ?
Alors ça, c'est une question qui a beaucoup intéressé, évidemment, les organisateurs de cette enquête, les membres de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Le co-sleeping, c'est quelque chose qui nous semble absolument naturel, mais évidemment, il y a plusieurs aspects. Ce qu'on appelle le co-sleeping, ça peut être quelque chose de très différent d'un individu à l'autre. Le co-sleeping auquel on pense généralement, c'est celui du conjoint et de sa conjointe qui vont partager le même lit. Mais ça peut être aussi un parent ou les parents qui vont dormir avec un enfant dans la même pièce pour différentes raisons. Ça peut être un adulte ou un enfant qui va dormir avec son animal de compagnie. Ou ça peut être finalement plusieurs adultes qui vont dormir dans la même pièce pour des raisons économiques ou pour des raisons d'espace dans l'appartement. Donc on voit bien que le co-sleeping a différents aspects et selon la situation dans laquelle on va se trouver, les conséquences ne seront pas les mêmes. Ce qui a été observé dans cette enquête, c'est que, en règle générale, le co-sleeping a un impact qui peut être défavorable sur le sommeil de ceux qui font du co-sleeping. Lorsqu'on partage son lit avec un individu qui ronfle par exemple, ou qui peut éventuellement même être apnéique du sommeil, eh bien le sommeil va être très perturbé. Lorsqu'on partage sa chambre avec un enfant, ou même son lit avec un enfant, quand par exemple il est malade, ou pas nécessairement d'ailleurs, certains souhaitent dormir dans la même chambre que leur enfant, eh bien ça va aussi avoir un impact, puisque à chaque fois qu'il y aura un mouvement, à chaque fois qu'il y aura un peu de bruit, eh bien ça va évidemment réveiller. Pour 4 sur 10, 40% précisément, il y a une perturbation qui est associée à ce co-sleeping.
Ça semble beaucoup, pourquoi est-ce qu'on continue finalement ?
Alors le co-sleeping, quelquefois, il est choisi. Hein, il est choisi pour plus de 50% des Français. Il est choisi parce que lorsqu'on est marié ou lorsqu'on a un conjoint, eh bien on souhaite partager son lit, sa chambre. Donc on choisit ce co-sleeping parce que c'est agréable. Certains rapportent évidemment se sentir plus en sécurité lorsqu'ils dorment avec leur conjoint ou leur compagne. Donc ça, c'est un choix. Malgré les inconvénients, on pourrait dire, eh bien, ça reste un choix qui reste acceptable. Dans d'autres situations, c'est moins un choix. Un enfant, par exemple, qui est malade et qu'on souhaite prendre dans son lit, ou un enfant qui fait des cauchemars, par exemple, pour les petits-enfants, eh bien, là aussi, c'est quelque part un choix pour rassurer l'enfant, surtout. Et même si on sait que le sommeil, son propre sommeil sera perturbé, eh bien, on va choisir pour autant de dormir avec l'enfant pour lui permettre à lui d'avoir un meilleur sommeil et de se sentir plus en sécurité. Et puis dans certaines situations qu'on pourrait qualifier d'économiques, des familles qui habitent dans un appartement qui ne leur permet pas d'avoir une chambre pour tous, eh bien le co-sleeping il n'est pas choisi, on pourrait dire, il est quelque part imposé par la situation. Et là il est difficile évidemment de s'en extraire.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cette question aujourd'hui ? On a eu pas mal de questionnements, de doutes, d'actualité sur le cododo, on s'en souvient notamment. Pourquoi est-ce que c'est un thème qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui et qui méritait d'être mis en avant pour cette journée nationale du sommeil ?
Alors ce thème qui a été choisi, il a toujours beaucoup intéressé, il a toujours suscité beaucoup de questions. Et on nous demande toujours, nous spécialistes du sommeil ou des rythmes biologiques, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bon ? Les gens nous disent tous, d'après leur expérience, que quelquefois, ils préféreraient être seuls, dormir seuls, parce que leur conjoint ronfle, leur conjoint bouge beaucoup. Et donc, la question méritait d'être traitée. Elle n'avait jamais été traitée. Et donc, elle méritait d'être traitée. C'est donc ce qui a été fait avec cette enquête. Et à partir de l'interrogation d'un peu plus de 1000 Français, qui sont représentatifs de la population générale, eh bien, les réponses qu'on a pu obtenir, évidemment, sont extrêmement intéressantes.
Finalement, est-ce que les Français dorment mieux ou moins bien qu'avant ?
Ça, c'est toujours une question intéressante, mais en même temps toujours difficile. Ce qu'on sait, c'est que la durée du sommeil a beaucoup évolué depuis le début de l'humanité. Évidemment, on n'a pas d'études qui nous permettent de savoir comment dormait l'homme de Cro-Magnon dans sa grotte. Il était visiblement, vraisemblablement, très différent d'une autre en termes de durée. Les contraintes n'étaient pas les mêmes. Mais dès lors que les études ont pu être menées ou que les premiers rapports concernant la durée du sommeil ont pu être enregistrés de manière relativement scientifique, eh bien, ce dont on s'aperçoit, et les premières études datent d'à peu près une centaine d'années. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a perdu, vraisemblablement, entre 1 heure et 2 heures de sommeil depuis une centaine d'années. Alors on peut se dire, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce qu'on dormait trop? Et est-ce qu'on dort trop peu maintenant? Ou bien est-ce que finalement, on est maintenant dans une situation de dette de sommeil? C'est-à-dire on dormait bien avant et on dort moins bien maintenant. Et la question n'est pas simple. On pense évidemment que l'environnement actuel, les contraintes sociales, les contraintes professionnelles, les contraintes lumineuses, l'environnement lumineux, peut-être qu'on y reviendra, qui peut avoir un impact très négatif sur le sommeil, le bruit aussi. Tout cela fait que le sommeil, vraisemblablement, s'est dégradé et que cette heure ou ces 2 heures de sommeil perdues sont malheureusement des heures de sommeil importantes qu'il nous manque et qui peuvent être associées à des troubles. Une équipe très connue aux États-Unis, l'équipe de Eve Van Cotter, elle a fait l'hypothèse dans les années 99, je crois, que cette dette de sommeil à laquelle on est exposé, à laquelle nos sociétés sont exposées, si on en croit effectivement cette diminution de la durée du sommeil global, pourrait être associée à une augmentation de l'obésité. Et depuis l'année 99, depuis sa première étude, un ensemble d'autres études dans différents pays sont allées dans ce même sens. C'est-à-dire qu'il existe un lien entre la durée du sommeil et la prévalence d'obésité qui augmente dans tous les pays industrialisés du monde et qui, étrangement et malheureusement, est inversement proportionnel à la durée du sommeil, c'est-à-dire le moins on dort et le plus on a de malchance, devrait-on dire, de souffrir de surpoids ou d'obésité.
Et pourtant, ça n'empêche pas que certains ont besoin de très peu d'heures de sommeil. Finalement, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on sent quand on a un souci?
Alors, la question est importante. En général, on conseille de consulter un médecin ou un médecin du sommeil, mais en première intention, il faut en parler à son médecin. On sait qu'on a un souci lorsque la durée de la veille n'est pas optimale, n'est pas de bonne qualité. Lorsqu'on se sent mal réveillé le matin, fatigué, ça, en soi, ça n'est pas nécessairement un mauvais signe, parce qu'il y a ce qu'on appelle des individus qui ont une grande inertie de sommeil. Il leur faut éventuellement une demi-heure, une heure et demie, chez certains, pour être tout à fait opérationnel et bien réveillé. Mais c'est plutôt dans la journée. Si dans la journée, on souffre de somnolence, on est très somnolent, on a beaucoup de difficultés à rester éveillé, si on a éventuellement d'ailleurs un surpoids, si on souffre de ronflement, tout ceci sont des signes qu'il faut consulter pour évoquer que la qualité de la veille n'est pas très bonne. Évidemment, si la qualité du sommeil n'est pas très bonne, il faut aussi en parler. Si on a pris du poids récemment, si on a cette tendance éventuellement à être un peu anxieux, un peu plus anxieux que d'habitude ou éventuellement un peu dépressif, alors il faut en parler parce que ce sont des signes qui peuvent être associés à un trouble du sommeil qui vient de s'installer par exemple. Ça, ce sont les signes qui doivent alerter. Lorsque on est un peu trop réveillé pendant la nuit, ça n'est pas grave nécessairement. Si ça dure 2-3 jours, ça va se résoudre tout seul. C'est quand l'insomnie, quand la fragmentation du sommeil s'installe dans la durée, qu'il faut aller voir un médecin, tout simplement pour le faire observer, s'assurer qu'il n'y a pas de souci, et puis le faire traiter, parce que maintenant, on sait traiter les troubles du sommeil. Donc il faut en parler à son médecin.
Le conjoint peut peut-être aussi alerter quand l'autre dort mal, quand l'autre ronfle, ou si jamais il y a des choses qui se passent mal dans son sommeil?
Absolument. Il faut en parler. On l'a dit, le sommeil est extrêmement important. Un sommeil de mauvaise qualité peut engendrer des troubles physiologiques à tous les niveaux. C'est très important d'avoir un trouble du sommeil traité. Donc si effectivement on se rend compte que son conjoint a un sommeil très agité, a une mauvaise vigilance pendant la journée, se réveille souvent, ronfle, etc., a une santé qui semble être moins bonne qu'il y a quelques semaines, alors on lui en parle et on consulte un médecin de manière à s'assurer que on n'est pas en présence d'un trouble du sommeil qui s'installe. Et si c'est le cas, ne pas s'inquiéter évidemment, parce que ce trouble du sommeil pourra être traité avec les traitements actuels.
Dans quel cas est-ce qu'un médecin traitant va renvoyer son patient vers un médecin spécialisé des rythmes biologiques comme vous par exemple?
C'est une bonne question. La raison pour laquelle un médecin ou un médecin du sommeil va s'intéresser aux rythmes biologiques, c'est lorsque on va être confronté à des troubles du sommeil très particuliers, qui s'appellent les troubles des rythmes du sommeil. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément un sommeil de mauvaise qualité en tant que tel. Ils vont éventuellement avoir 8 heures de sommeil de très bonne qualité, mais au mauvais moment. Par exemple, on aura des individus qui souffrent d'un trouble qu'on appelle le retard de phase. On l'observe beaucoup chez les adolescents, en particulier les consommateurs d'écran, mais pas uniquement. Ce sont ces individus qui vont s'endormir ou qui ne pourront pas s'endormir avant 2 heures, 3 heures ou 4 heures du matin. Et donc, quand ils en auront la possibilité, eh bien, ils se réveilleront par exemple à 11h, midi ou 13h, après leurs 8h de sommeil, de bonne qualité. Donc le problème pour ces gens-là, c'est que lorsqu'ils peuvent dormir 8h, ou ce dont ils ont besoin, eh bien, ils n'auront pas de problème. Leur journée qui va suivre sera de bonne qualité. Le problème, c'est qu'évidemment, dans la vraie vie, lorsqu'on est étudiant ou lorsqu'on est employé, eh bien, si on s'endort à 3 ou 4 heures du matin et qu'on doit aller travailler pour 8h30 ou 9h, eh bien, on imagine bien que là, ça va conduire à un trouble, puisque la quantité de sommeil qui sera finalement prise sera trop courte. Donc ces individus vont souffrir très vite d'une dette de sommeil qui va s'accumuler au cours du temps. Et dans un certain nombre de cas, cette dette de sommeil va conduire à des troubles, troubles de la vigilance, troubles des résultats scolaires chez l'adolescent, dépression, anxiété et tous les autres troubles qu'on a déjà évoqués. Donc ça, c'est l'un des troubles retard de phase qui est très prévalent, très connu en ce moment, en particulier chez les adolescents forts utilisateurs d'écran. L'autre trouble est l'avance de phase. Alors c'est moins gênant généralement. Ce sont ceux qui s'endorment éventuellement à 20h ou 19h même et qui vont se réveiller au beau milieu de la nuit. Généralement, ça pose moins de problèmes, si ce n'est que ces gens-là, quelquefois, évidemment, veulent passer plus de temps avec leur famille, donc vont retarder leur endormissement. Et comme leur réveil va se produire au beau milieu de la nuit, parce que leur réveil sera déclenché par leur horloge biologique, ils n'auront dormi que éventuellement 6 ou 7 heures. Donc eux aussi, dans certains cas, pour ceux qui ont une famille, vont se retrouver aussi éventuellement en dette de sommeil. Le dernier trouble qu'on peut évoquer, c'est le trouble du travailleur de nuit, qui est aussi l'un des troubles des rythmes circadiens. C'est ce trouble qui ressemble d'ailleurs à celui du décalage horaire. Eh bien, ce sont ces individus qui vont avoir des épisodes de travail qui vont changer, qui n'auront pas lieu à la même heure tous les jours. Et ce sont ceux qui font, par exemple, soit des postes réguliers de nuit, soit des postes rotatifs, une fois de l'après-midi, une fois de nuit, une fois du matin. Et dans ces situations-là, eh bien, le sommeil devient très vite de mauvaise qualité parce qu'il ne se produit pas au bon moment dans les 24 heures, il ne se produit pas la nuit. Et donc le sommeil de jour ou le sommeil de l'après-midi ou le sommeil de fin de soirée n'est pas de bonne qualité comparativement à un sommeil de nuit et ces individus vont souffrir de troubles dont on a parlé tout à l'heure. Ils se retrouvent dans une situation très difficile et vous savez, le travail de nuit en France, c'est environ 20% des salariés, c'est donc très important. On encourage tous ces individus à consulter leur médecin dès lors ils ont la sensation d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, un sommeil altéré, une vigilance altérée ou d'autres troubles. Il faut en parler au médecin du travail, puis à son médecin général.
Comment est-ce qu'on peut mieux dormir ? On dit souvent que la clé, c'est de respecter son rythme. Est-ce que c'est vrai ?
Alors oui, c'est vrai, dans une certaine mesure. Par exemple, un adolescent qui, s'il respecte son rythme, a tendance à se coucher à 3h du matin, là, ça va poser un problème. Mais en règle générale, oui, c'est respecter son rythme. Quand respecter son rythme permet d'avoir un sommeil au bon moment, en phase avec ses contraintes professionnelles ou scolaires. Si ces conditions-là sont réunies, alors oui, il faut respecter son rythme. En règle générale, ce qu'on conseille, c'est de ne pas retarder son endormissement. Il est facile d'aller se coucher trop tard. Il est par contre plus difficile d'aller se coucher tôt. Donc il faut faire très attention à cela. Il est très facile de dériver et de démarrer son sommeil trop tard et ainsi de créer une dette de sommeil. Les recommandations qu'il faut avoir à l'esprit, c'est prendre bien soin de son sommeil. Le sommeil est précieux. Chaque heure de sommeil perdue est une heure de sommeil perdue. On ne pourra pas la récupérer. En général, quand on se couche une heure trop tard, on ne dort pas une heure de plus parce que le sommeil matinal est de moins bonne qualité et il n'est pas aussi récupérateur. Donc il faut avoir une très bonne hygiène de sommeil, prendre soin de son sommeil. Il y a tout un tas sur le site de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. On trouve des conseils sur l'hygiène de sommeil. Et puis, il faut aussi avoir une très bonne hygiène de lumière. L'exposition à la lumière, des écrans, des téléviseurs, des smartphones, des tablettes, a un impact négatif sur le sommeil. En maintenant l'éveil plus longtemps, ces outils créent une dette de sommeil. Donc, très bonne hygiène de lumière, très bonne hygiène de sommeil sont les recommandations qu'on peut faire aujourd'hui à ce sujet.
Avant de conclure, on va revenir sur le nouveau conseil donné aux jeunes parents, c'est de dormir dans la même pièce que son bébé. Pourquoi ? Expliquez-nous. C'était pas le cas avant.
Maintenant, l'Académie de médecine pédiatrique aux États-Unis, en octobre 2016, a publié une étude qui, au contraire, recommande ce qu'on appelle le co-sleeping dans la chambre, pas dans le même lit, pour les parents, c'est-à-dire de dormir avec leur bébé dans la même pièce si c'est possible, parce que les études ont montré que, eh bien, on en réduisait de 50% la mort subite du nourrisson. C'est un conseil qui est donné et qui est important aux parents d'un nourrisson. Jusqu'à 6 mois, c'est la recommandation. Au-delà, évidemment, la recommandation, c'est d'apprendre à son enfant à dormir seul. Et très vite, en tout cas à partir de 6 mois, il faut que l'enfant puisse dormir seul et faire ses nuits. Les enfants sont, j'allais dire, programmés génétiquement quelque part, on pourrait le dire, ça n'est pas faux, à dormir seul à partir de 6 mois. Et de faire leur nuit de sommeil, surtout à partir de 6 mois. C'est la recommandation, effectivement, de l'Académie américaine de médecine pédiatrique.
Merci beaucoup, Dr Claude Gronfier. On rappelle que vous êtes chercheur au sein du département de chronobiologie à l'INSERM de Bron et spécialiste des rythmes biologiques.
Merci à vous.
La journée nationale du sommeil a lieu à la mairie du 3e arrondissement de Lyon dès 15h avec des conférences jusqu'à 17h30 et c'est vendredi. On vous mettra toutes les informations sur la page Facebook de Phare FM aux portes du Dauphiné.